RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour sur le plateau de Mardi Politique sur France 24 et RFI avec notre invité François Rebsamen, le maire de Dijon qui a été longtemps numéro 2 du Parti Socialiste. Alors on va parler des élections législatives. Vous avez déclaré il y a 2 semaines douter entre guillemets qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité à l'Assemblée. On va regarder
absolue. Absolue.
Majorité absolue à l'Assemblée. On va regarder un des sondages qui a été pris ces derniers jours qui prouverait que son parti arriverait en tête avec 27% des suffrages. Devant les Républicains, à égalité avec le Front National, 20%. France Insoumise, 14%. Le Parti Socialiste, 11%. Est-ce que vous maintenez votre pronostic à propos d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous pensez qu'il peut obtenir en effet une majorité absolue?
Je ne le pense pas, mais c'est possible. On ne sait pas comment les choses vont se dérouler. Ce que je sais, c'est qu'il y a aujourd'hui des élus socialistes, des députés socialistes qui sont sur le terrain, qui sont connus, qui sont implantés, et bien malins aujourd'hui, qui peut, par-delà des sondages nationaux comme ceux qu'on vient de voir, qui peut dire si un député qui a bien fait son travail, qui est attaché à la justice sociale, qui est connu et estimé, peut être battu, parce que c'est bien la question qui se posera, non pas par quelqu'un de droite, mais par quelqu'un qui est investi par En Marche. Donc c'est ça la question. Mon sentiment, c'est que là où on a des députés socialistes, connus, reconnus, qui ont bien travaillé, qui ont été loyaux, qui se sont comportés de manière correcte pendant le dernier quinquennat.
Vous voulez dire qu'ils n'ont pas frondé, c'est ça?
C'est ce que je veux dire. Oui. Et qui se sont comportés de manière correcte vis-à-vis de leur engagement, je pense qu'ils ont des chances d'être réélus. Combien ça fera à la sortie? J'espère le plus possible. On a besoin d'une gauche. On a besoin de socialistes à l'Assemblée nationale. On a besoin de socialistes qui défendent, parce que c'est notre ADN, la justice sociale. Mais moi, ce que je veux, c'est que la gauche, elle soit tout à la fois constructive, c'est-à-dire qu'elle soit en soutien et en proposition, je dis bien en soutien et en proposition, mais en même temps qu'elle soit vigilante, c'est-à-dire qu'elle elle reste attachée à ce qui a été créé et qu'elle puisse défendre cela. Il faut une gauche qui fasse le contrepoids, en quelque sorte, qui contrebalance certaines mesures qui pourraient être prises. On peut prendre des exemples concrets. Une gauche qui propose. Moi, je pense depuis longtemps qu'il faudrait doter, c'est dans notre programme socialiste, les jeunes d'un capital de départ. Parce que souvent, ils ont besoin de déposer une caution quand ils veulent avoir un logement. Ils auraient un capital de départ qu'ils pourraient utiliser pendant leur vie, de 10 000 euros par exemple. C'est une proposition que fait le Parti Socialiste. Elle peut être prise par d'autres. Je soutiens des propositions d'Emmanuel Macron. On va voir si le gouvernement les confirme. Mais le retour de la police de proximité, j'y suis tout à fait attaché. Mon grand regret, c'est que nous ne l'ayons pas fait, je me permets de le dire encore plus clairement. Et le fait de couper les classes en deux, de 12 élèves dans les quartiers difficiles de la politique de la ville, c'est absolument une bonne mesure. Voilà des mesures qui ne posent même pas de problème et que nous devons soutenir et que nous soutenons. Nous sommes constructifs. On propose, on soutient. Mais en même temps, je pense qu'il faut être vigilant. J'ai quelques points de vigilance. On a évoqué ensemble tout à l'heure le dialogue social, je crois indispensable. À titre personnel, j'ai créé ce qu'on appelle le compte personnel d'activité qui figurait dans la loi que j'ai fait adopter. Et ce compte personnel d'activité, il a donné 2 nouveaux droits aux salariés. Le compte personnel de formation et le compte pénibilité. Et je pense qu'il faut être vigilant pour maintenir ces droits parce que je vois que certaines franges...
Il est très critiqué, le compte pénibilité.
Oui, mais il est en vigueur sur un certain nombre de domaines. Ça ne doit pas être, une complexité supplémentaire pour les entreprises. Il y a des choses qui sont simples. Mesurer la chaleur, mesurer le bruit, tout ça se fait assez facilement. Mais où c'est complexe, le compte pénibilité, c'est pour ça que nous avions demandé, je vais être un peu techno, ne m'en voulez pas, aux branches d'assurer des référentiels, c'est quand il faut...
En effet, c'est techno.
quand il faut mesurer, par exemple, les produits chimiques dans l'air, tout ça, c'est assez compliqué. Mais la pénibilité, c'est pour vous, pour moi, pour toute personne attachée à la justice sociale fondamentale. Vous savez, il y a des gens qui travaillent dans des conditions difficiles, qui ont une espérance de vie de plusieurs années en moins que les autres. Et la justice, c'est justement de leur permettre d'avoir des trimestres supplémentaires de retraite pour profiter un peu plus de leur vie à la retraite, parce qu'ils mourront plutôt que les autres. Et donc c'est ça l'esprit du compte pénibilité. Et personne ne peut nier ça, et j'espère qu'on n'y touchera pas. Alors, même si on peut le simplifier, je suis d'accord.
Est-ce que vous n'êtes pas en train d'inventer une nouvelle position à l'Assemblée nationale ? Parce que traditionnellement à l'Assemblée, on est ou dans la majorité ou dans l'opposition. Et là, vous êtes où ?
Mais moi, j'ai toujours été pour des coalitions claires. Moi, à titre personnel, j'ai toujours défendu l'idée qu'on puisse avoir des coalitions. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé, par exemple...
Des coalitions ponctuelles ?
Oui, des coalitions sur un programme, un programme. Alors c'est clair, c'est précisé au départ. En Allemagne, par exemple, le fait que le SPD et la CDU de Mme Merkel aient créé une coalition a permis, ce que jamais la SPD n'a pu faire tout seul, a permis de donner un salaire minimum aux salariés en Allemagne. Il n'y avait pas de salaire minimum. Il y en a un maintenant. Donc on peut avoir des avancées sociales sur des coalitions claires. Et donc moi j'ai toujours été favorable. Je pense pas que ce soit bien pour la démocratie qu'un seul parti, je parodie François Mitterrand, ait la majorité absolue tout seul. Il faut de la gauche pour défendre, et j'espère qu'il y aura le plus d'élus socialistes possible pour défendre la justice sociale, pour soutenir le gouvernement sur un certain nombre de projets, et même pour proposer. Voilà.
Alors le problème c'est le nombre de députés, oui, quand même, sûr. Pour défendre, pour être vigilant, pour proposer, il faut quand même un nombre. Tout le monde parle de la Bérézina entre guillemets de 1993. On se souvient que le PS n'avait obtenu que 57 sièges, mais je voudrais rappeler quand même qu'il avait obtenu plus de 17% des suffrages exprimés. Là, les sondages parlent de 12%. Je ne vais pas rappeler le score de Benoît Hamon, 6% à la présidentielle.
Ce qui n'est pas le score du Parti Socialiste.
Oui, j'ai bien compris la nuance. Mais quand même, est-ce que vous craignez qu'on se retrouve avec moins de députés encore qu'en 1993? C'est quand même une possibilité réelle.
Je ne sais pas, je ne le pense pas, mais il va falloir faire la campagne. Il faut faire la campagne sur un thème central, celui que je viens de présenter, à savoir un PS, une gauche de gouvernement qui s'assume comme tel, qui a une ligne. Et quand cette ligne a été adoptée, celle que je viens de dire, une gauche constructive et vigilante, c'est pas plus constructive, moins constructive, ni ça, c'est fini. Il faut que ça s'arrête, parce que c'est ça qui a porté tort au Parti Socialiste, je le crois. C'est ceux qui ne respectaient pas le contrat majoritaire. Donc la ligne, elle a été arrêtée, adoptée. On a fait une réunion à Conseil national il y a une dizaine de jours. On a arrêté un programme, des propositions, une ligne claire. Donc si on se bat là-dessus, on devrait avoir des députés, beaucoup de députés, je l'espère. Le sondage, il dit, je pense qu'il y a des endroits où on aura des très mauvais scores. Très mauvais score. Parce qu'on n'a plus d'élus locaux, on a été battu à des élections municipales, et puis il y a des endroits où on va faire des très bons scores. Et donc ça donnera, j'espère, plus de 11%. Voilà.
Mais c'est cyclique, finalement. Il y a régulièrement...
Oui, mais il est au bout d'un cycle, quand même.
Alors voilà, vous êtes au bout d'un cycle.
Quand même, oui.
Que doit-il arriver au Parti Socialiste ? Est-ce qu'il doit se réinventer, se refonder, se...
Les mots ont tellement été usés.
Ah oui, voilà, on ne sait plus lesquels employer.
En tous les cas, à mon avis...
Et alors, écoutez, à ce propos, tiens, justement, même la question qui, d'ailleurs, n'est pas nouvelle non plus, faut-il qu'il change de nom ? Voilà, c'est une...
C'est avec ça.
On va écouter à ce propos ce que dit le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis.
Je pense que le Parti Socialiste va se refonder, se reformuler, se restructurer, qu'il y aura beaucoup de travail et que je serai au milieu de ce travail.
Voilà, on a une galerie de verbes, refonder, reformuler, restructurer.
J'en ai un autre, se rénover du sol au plafond, vous voyez, il faut absolument.
Oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce ne soit pas justement une fois de plus, on a dit qu'on allait se réinventer, puis on ne se réinvente pas, et on repart comme en 40.
Non, il faut que les choses soient claires. C'est pour ça que je parlais de cela tout à l'heure. Quand il y a une position majoritaire, et la majorité du Parti Socialiste, je la connais, elle est aujourd'hui social-démocrate, affirmée, elle est une gauche de gouvernement qui est pragmatique, qui ne nie pas ses valeurs, qui est attachée à la justice sociale, mais qui n'est pas toujours dans la contestation, etc. Et qui respecte les règles majoritaires.
Pour identifier ça, ressemble à qui ? À Manuel Valls, par exemple ?
C'est plus central que Manuel Valls.
Entre Valls et Hamon, alors c'est...
C'était la ligne centrale, c'est celle qui est majoritaire dans le Parti Socialiste.
Mais qui l'incarne aujourd'hui ?
Qui peut l'incarner aujourd'hui? Bah, celui qu'on désignera demain comme futur premier secrétaire, qui sera...
Vous avez entendu que Jean-Christophe Cambadélis se voit jouer un rôle central.
Bah, il a un rôle à jouer, bien évidemment, je n'ai pas dit le contraire. Mais les époques vont venir, les temps vont changer, d'autres personnalités vont venir, bien évidemment. Et donc, c'est celui qui sera élu sur cette ligne-là. Il peut y avoir des oppositions, mais elles doivent, une fois que le vote est passé, respecter la ligne majoritaire. Moi, je suis quelqu'un qui veut qu'on respecte la ligne majoritaire. Voilà. Avant, on a des débats, mais après, elle est arrêtée. Et si ça avait été fait, si ça avait été convenablement pensé, on ne serait pas où on en est aujourd'hui après ce quinquennat.
Alors, là où on en est aujourd'hui...
Si vous permettez encore un mot, parce que c'est quand même très compliqué à démêler tout cela, c'est aussi le produit de la primaire, ce qui s'est passé pendant le quinquennat. Ça doit donc nous interroger sur les primaires elles-mêmes.
C'est une erreur.
En tous les cas, ça a marché une fois, avec les conséquences négatives que j'ai connues que nous avons connues pendant le quinquennat, à savoir que parce que on a fait 5% ou 7%, on peut s'estimer central dans le Parti socialiste.
Et être Premier ministre,
par exemple, ce qui me semble pas juste, je le dis, le choix du président est le choix du président, mais enfin, je dis ce que je pense. Je me suis tu pendant le quinquennat au nom du respect, justement, de cette discipline qu'on peut dire nécessaire entre nous. Et alors, les primaires, maintenant, on a vu ce que ça donnait. C'est une machine, quand même, à broyer tous les candidats, à faire voter ceux qui sont pas là. Ça a empêché Hollande d'être candidat. Ça a permis, enfin, éliminer Sarkozy, éliminer Juppé, éliminer Fillon pour d'autres raisons, éliminer Manuel Valls. Ah, c'est vraiment... Donc, moi, je suis pour que les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage, c'est l'article 4 de la Constitution, eh bien, ils retrouvent une place, ils fassent des programmes et que ça soit pas des individus qui improvisent des programmes. Parce que quand c'est des individus qui improvise des programmes, eh bien ça donne le résultat qu'on a vu avec, c'est quelqu'un de bien, Benoît Hamon, c'est pas le problème de la personne, mais son programme n'était pas le programme des socialistes. Je me reconnaissais pas, absolument pas là-dedans. Personne n'avait débattu, je sais pas, d'un 49-3 citoyen, enfin des choses qui étaient nées comme ça, d'une réflexion en petit comité. C'était pas... Donc moi je suis pour que les partis refassent des programmes, présentent leurs candidats et défendent leurs candidats.
Alors, les partis présentent leurs candidats, mais vous avez dû noter quand même que il y a deux anciens ministres investis par le Parti Socialiste qui ont choisi des affiches de campagne un petit peu particulières. Celle qui vous a succédé, au ministère du Travail, Myriam El Khomri, candidate dans le 18e arrondissement de Paris, et l'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, dans la 3e circonscription d'Indre-et-Loire. On a beau chercher sur ces affiches, on voit que ce sont des candidates pour une majorité de progrès avec Emmanuel Macron. Le Parti Socialiste, il faut vraiment chercher parce qu'il n'y figure pas. Certains dans l'Indre-et-Loire ont qualifié ça au sein du PS de trahison. Quelle est votre réaction à ces affiches et surtout ce que ça traduit, j'allais dire, de cette espèce d'anarchie qu'on a l'impression de voir au Parti Socialiste? Chacun fait campagne comme il veut, avec le programme qu'il veut, avec les affiches qu'il veut, il n'y a plus aucune règle.
Non, je pense que le programme, je vais revenir aux affiches, le programme, c'est celui que j'ai expliqué, présenté, qui a été adopté à l'unanimité en Bureau national et en Conseil national. Donc, il est clair, c'est un contrat clair pour une gauche constructive et vigilante avec des propositions. Ils vont porter cela. Mais on est aujourd'hui confronté à un phénomène qui est nouveau, l'apparition, mais là je vois qu'il y a des sigles en bas quand même. Je vois le Parti Socialiste.
Oui, mais c'est à la loupe. Hein. Vraiment, ça...
Oui, mais il y a
sur celui de Myriam El Khomri, il y a tout petit peu le PS.
Il y a tellement de sigles, j'avais pas vu les affiches.
Voilà. Et sur Marisol Touraine, il n'y a aucun signe visible du Parti Socialiste.
C'est pas la première fois que je pense que c'est pas bien, moi. Je dis ce que je pense. Je pense que c'est pas bien, on peut mettre le sigle de son parti. D'ailleurs, Myriam El Khomri l'a fait avec d'autres partis qui doivent la soutenir. Mais je pense que c'est pas la première fois, ça se voit. Elle doit considérer que le Parti Socialiste s'est décrié, que ça va lui nuire. Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut être fier. Il faut être fier de son parti, il faut être fier de ce qu'on fait. Il faut dire qui on est, et ça ne nuit jamais. Ça ne nuit jamais. D'abord, comment voulez-vous gagner si vous n'êtes pas fier de ce que vous avez fait? Or, elle a toutes les raisons d'être fière de ce qu'elle a fait. Je pense qu'elle a rétabli les comptes, elle a été une bonne ministre, donc elle pourrait afficher son appartenance à un parti politique. Par contre, les procédures d'exclusion, d'excommunication et tout ça. Alors là, faut arrêter, c'est ce que j'ai.
Mais est-ce que ça n'a pas le mérite de mettre les choses au clair? La même question se pose d'ailleurs à droite.
Oui, mais je peux pas, chez les Républicains. Je peux pas le faire sur une.
On est membre d'un parti ou d'un autre, mais on peut pas.
Mais si elle défendait
avoir
pas,
un
si elle défendait
dans,
pas
dans chaque appartement.
Non, si elle défendait pas le programme qui est celui qui a été adopté par le Parti Socialiste, je vous dirais oui. Mais je n'ai vu que cette affiche.
Enfin, prenez Myriam El Khomri qui dit avec Macron. Et elle défend le
avec
programme
Macron,
du Parti
président
socialiste.
De la République.
Avec Emmanuel Macron pour une majorité de programme.
Elle a appelé à voter Emmanuel Macron, je crois, au deuxième tour.
Oui, mais alors, dans ce cas-là,
beaucoup de gens l'ont fait.
Dans ce cas-là, on ne met pas le logo du Parti socialiste. Enfin, vous voyez,
si, parce que c'est son appartenance de parti.
Mais c'est pas cohérent.
Faut savoir. Soit on le met, soit on le met pas. Moi, je.
On le met pas quand on ne s'en réclame pas du programme du Parti socialiste. On le met si on s'en réclame.
Enfin, je sais pas. On s'en réclame.
Ça, c'est le bon sens.
On s'en réclame. Et peut-être faudrait-il voir le journal de campagne de Marisol Touraine. Peut-être on aurait des précisions sur son logo.
Juste en venir.
Et puis, je veux pas faire le procès de Marisol Touraine.
Peut-être celui de Benoît Hamon, alors, parce qu'on a appris qu'il soutient un candidat communiste contre Manuel Valls dans l'Essonne, mais aussi certains candidats Europe Écologie Les Verts ou de gauche contre des candidats investis par le Parti Socialiste.
C'est pas bien. C'est pas bien.
C'est tout. C'est ça, ou ça vous choque quand même?
Oui, bien sûr, ça me choque, bien sûr. Je dis c'est pas bien, c'est ma formule, c'est la mienne de formule. Non, c'est pas bien, on fait pas les choses comme ça. On soutient les, quand on est socialiste, on soutient les candidats du Parti Socialiste.
Mais lui doit considérer que quand il a été candidat à la présidentielle.
Tout le monde n'a peut-être pas soutenu comme il fallait. Moi, j'ai donné mon parrainage, j'ai pas de difficulté sur ce point. J'ai fait une campagne très forte pour Macron au deuxième tour, parce que je voulais absolument que Le Pen fasse le plus petit score possible. Donc voilà. Et je me considère, d'une certaine manière, appartenir à la majorité présidentielle. C'est François Mitterrand qui avait inventé ce concept de majorité présidentielle après l'élection de 81, en disant tous ceux qui ont voté pour moi au deuxième tour font partie de la majorité présidentielle. J'ai d'ailleurs pensé que c'était une erreur de François Hollande. François Bayrou avait voté pour lui, avait appelé à voter pour lui, mais pour moi, il aurait dû être présenté comme majorité présidentielle. On ne l'a pas fait, c'était une erreur.
C'est ce que Emmanuel Macron a fait. Je veux revenir au 1er décembre dernier. Il est 20h, le président de la République de l'époque s'adresse aux Français. On l'écoute.
Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Au renouvellement donc de mon mandat.
Vous étiez au courant ?
Oui, j'étais au courant. Il m'avait mis au courant. Oui.
Et vous le regrettez toujours ?
Qu'il est. Non, je pense que il a fait une première erreur. Il en a fait, hein, qui n'en fait pas, autant le dire. Il a fait une erreur d'accepter le principe d'une primaire. Je pense qu'un président de la République sortant ne passe pas par une primaire. Je lui ai dit personnellement. Je pense que même à cet instant-là, il pouvait être candidat hors la primaire.
Alors qu'il l'avait accepté.
Ça devenait
délicat.
C'est ce que je disais, c'était la première erreur.
Oui, mais vous dites à cet instant-là,
oui,
il pouvait encore. Par quel artifice
dire je suis candidat hors les primaires parce que je suis président de la République sortant. Ça aurait été un acte, à mon avis, d'autorité qui aurait été reconnu comme tel. Ça n'a pas été son choix, on ne va pas rentrer dans le débat. L'erreur première, c'est d'avoir accepté de se prêter au jeu de la primaire. Et puis, il y a eu d'autres erreurs. Macron est parti au mois de septembre. Il a fait un livre avec des journalistes qui n'étaient pas génial. Je vais dire des choses comme ça, qui a perturbé quand même le lancement de sa campagne qu'on avait prévu. Et puis ensuite, il y a eu un petit coup d'épaule de Manuel Valls. Enfin bref.
Pas d'Emmanuel Macron.
Si, j'ai dit, Emmanuel Macron est parti avant.
Oui, mais voilà. Coup d'épaule.
Mais le dernier coup d'épaule, c'était celui de Manuel Valls, mais les dés étaient peut-être déjà jetés, donc je peux dire cela comme ça, de sa candidature. Donc en tous les cas, moi je regrette, je me suis senti un peu orphelin sur le moment, d'autant plus que les résultats, comme je le disais, économiques, sociaux, allaient venir, et venaient. Et donc la chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, et tant mieux pour lui, tant mieux pour la France, Emmanuel Macron, il va trouver quand même une France en bien meilleur état en 2017 que celle qu'on a trouvée en 2012.
Hein. Comment va-t-il ? Vous aviez prévenu François Hollande du danger Macron, vous le sentiez venir?
J'avais surtout il avait vu la concurrence qui s'exerçait entre Emmanuel Macron et Manuel Valls. Et donc je pense que c'est cette concurrence. Bon, après tout, c'est comme ça, les hommes, les femmes. C'est cette concurrence qui a nuit beaucoup à la fin du mandat.
Voilà. C'est la fin de cette émission. Merci François Absamen, merci Marc, et merci à Pauline Hellmann et Audrey Attoni qui nous ont aidés à la préparer. Mardi Politique revient évidemment mardi prochain.
Et merci à vous.